Alors, déjà, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter?
Alors, je m'appelle David Valle, je suis auteur et interprète de textes qui s'appellent Les Causeries. Je viens du milieu du théâtre. J'ai été l'auteur pour des metteurs en scène, pour des chorégraphes. Et depuis maintenant 3 ans, je travaille à ces fameuses causeries dont je viens de parler, qui sont des textes issus à mi-chemin entre un monologue théâtral et une relation de voyage, qui sont le fruit d'une longue enquête que je mène auparavant, à partir de thèmes spécifiques à chacune de ces causeries.
Les causeries, finalement, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas une conférence, c'est pas non plus une entière pièce de théâtre, c'est un mi-chemin entre les deux.
C'est une histoire, c'est un récit. C'est un récit dramaturgiquement construit et qui va assembler des histoires que les gens ne connaissent pas, des audaces philosophiques ignorées, des histoires oubliées, des faits scientifiques encore confidentiels, et qui, interprétés d'une certaine manière et mis en relation les uns avec les autres, ben, vont essayer de faire surgir une dimension inattendue et poétique du sujet que je me propose de traiter.
Une causerie, selon vous, c'est plus un travail de chercheur ou tout de même un travail d'auteur avant tout?
C'est un travail. Avant tout, c'est les deux, mais c'est avant tout poétique. C'est-à-dire que, effectivement, je rencontre, pour écrire tout cela, des scientifiques, des philosophes, des médecins, des astrophysiciens, des historiens, selon le thème, encore une fois, que je me propose de travailler. Mais ensuite, tout cela reste très subjectif. Donc, c'est vraiment une création poétique. C'est une histoire, c'est un conte, mais tissé de réalité.
Alors c'est un récit d'histoire, mais il y a quand même une petite démarche scientifique derrière qui tient un peu aussi du traité.
Les deux ne s'opposent pas. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, que ce soit factuellement vrai et poétique et drôle.
Vous parliez tout à l'heure de transmission d'histoire, et c'est vrai qu'on ressent ça dans la causerie de remettre au premier plan une relation entre le raconteur et les auditeurs, un peu comme autour d'un feu de camp ou un feu de cheminée.
C'est tout à fait ça. D'abord, oui, essayer de recréer l'ambiance d'une veillée. Oui, raconter, voilà, se mettre au coin du feu et puis raconter des histoires étonnantes.
Alors, vous avez dit, pour vous citer, si on retient pas tout ce que je dis, c'est pas grave, c'est même plutôt bien. Pourquoi? Je trouverais ça plutôt vexant qu'on retienne pas ce que je dis.
Parce que vous pouvez pas retenir tout ce que je raconte. Il y a trop de choses. Et puis, ce qui est important, c'est l'instant. C'est pas ce qu'il en reste. Il en restera toujours quelque chose, mais c'est vrai que l'histoire est conçue de telle manière que vous ne pouvez absolument pas retenir toutes les digressions que je fais. Et à la fois sur le moment, elle passe. Donc c'est vraiment à vivre dans l'instant comme une histoire.
Quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous passez pour créer un texte de causerie? Il y a d'abord un travail de recherche, ensuite d'écriture?
Ouais, c'est très long. C'est un travail de recherche. Et puis de digestion de l'information. Sur 500 faits que je vais trouver, c'est des chiffres que je donne comme ça au pif, je vais en garder qu'une centaine. Il y en a moins en vérité. Et après, c'est que ce fait-là, c'est pas didactique, c'est pas non plus scientifique au sens où je ne veux pas donner une réponse forcément à un sujet. En revanche, ce que je vais raconter et qui va dévoiler tout de même quelque chose, ça va me servir, on va dire, c'était un prétexte à parler de l'homme. Qu'est-ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est l'homme dans tout ça? Quelle est sa place? Par quoi est-il inspiré? Par quoi sa curiosité est-elle nourrie? Ses actes sont causés par quel désir? Et c'est ça m'intéresse, surtout à notre époque. Je trouve que c'est très important de parler de ça, de remettre un peu du sens de l'histoire et du sensible et de l'émotion dans les démarches humaines.
On a aussi l'impression que c'est un peu à titre personnel, votre petit cabinet de curiosité, tout ça, c'est un peu votre espace à vous où vous étonnez vous-même de ce que vous trouvez.
Oui, ça c'est très juste aussi. Oui, c'est un cabinet de curiosité. J'essaye de raconter mon émerveillement, l'émerveillement ressenti pendant cette enquête.
Alors, ces enquêtes, il y en a trois autour de thématiques très différentes. Il y a notamment un traité sur la boule de cristal, d'autres sur les abîmes, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, la spiritualité de la danse. Finalement, est-ce qu'il y a un fil rouge, un point commun avec tous ces trois thèmes? À part de parler de l'homme, comme vous le disiez tout à l'heure.
Donc les trois, il y a le traité de la boule de cristal, effectivement sur la boule de cristal et notre désir de toujours vouloir prédire et prévoir le temps. La visite curieuse et secrète, qui est sur la rencontre avec ma rencontre avec un manchot, un animal, le manchot, qui se prend pour un homme, qui habite à Brest et qui s'appelle Dominique et qui me sert ensuite à parler du monde des océans, et l'histoire spirituelle de la danse. Alors toutes les trois sont autonomes, mais si on les lit ou on les voit représentées, on s'apercevra effectivement qu'il y a là aussi peut-être une sous-couche de quelque chose qui se développe au fur et à mesure des causeries. Voilà, ça parle toujours, comme je vous le disais, de l'homme, mais dans un certain sens.
C'est une vraie cohésion en triptyque. À l'heure où on enregistre cette interview, vous allez présenter dans quelques heures la spiritualité de l'histoire spirituelle de la danse. J'ai l'impression que spiritualité et danse, c'est un petit peu un paradoxe. Quand on exprime notre spiritualité, on a très peu recours à la danse.
En tout cas, c'est ce qu'on dit souvent en Occident. Oui, on a souvent tendance à croire, parce qu'on l'a beaucoup répété à partir du 19e siècle, que le corps et l'esprit, que le corps et l'âme, que le mouvement et la réflexion étaient séparés. En fait, j'essaye de trouver une généalogie poétique et surprenante, en tout cas, de la danse, qui tendrait quand même à montrer que c'est pas si évident que ça, cette séparation, et qu'au contraire, il y a vraiment une histoire spirituelle des pratiques chorégraphiques et dansées en Europe.
Et selon vous, c'est selon ces différents événements qu'aujourd'hui on est plus du coup dans la retenue du corps quand on s'exprime, ou du moins quand on veut faire passer ses convictions spirituelles ou intimes ?
Encore une fois, c'est une histoire subjective, hein, ce que je raconte. Donc c'est mon histoire, c'est mon impression, c'est mon cheminement de pensée. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui pourrait expliquer... En tout cas, je ne peux pas trop raconter de quoi parle cette histoire, parce que je ne voudrais pas justement dévoiler un peu toutes ces petites choses que je raconte, qui parlent de danse, mais surtout d'autres choses aussi. Oui, il y a une généalogie, il y a une cause à notre rapport à la danse à l'heure actuelle.
Et aujourd'hui, on est toujours dans cette dissociation de la spiritualité et de la danse, ou au contraire, aujourd'hui, on a plus tendance à rapprocher ces deux notions?
Je trouve qu'on les rapproche énormément, et notamment en danse contemporaine, où justement, moi qui ai beaucoup bossé en danse contemporaine, on s'aperçoit bien qu'on part vraiment de son intériorité pour danser. La danse, c'est une technique, mais c'est aussi une sensation, un ressenti. Et donc dans ce cas, et c'est pas un hasard si la danse contemporaine est née, à mon avis, en Occident, en Europe. Parce que justement, c'est aussi une volonté de réconciliation avec une danse plus spirituelle que peut-être la création de la danse et du danseur professionnel au XVIIe siècle par Louis XIV avait un peu séparé, en faisant de la danse spectacle en tout cas. Ouais.
Finalement, on a de la musique spirituelle, on a de l'écriture spirituelle, on a de l'art pictural spirituel, la sculpture spirituelle. Est-ce que finalement la danse n'est pas un peu le mouton noir de la religion ou de la spiritualité en général ?
Ça l'est devenu. Mais justement, dans l'histoire spirituelle, on exhume des choses qui montreraient que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est devenu, effectivement. Et maintenant, c'est de moins en moins vrai, ça redevient. La danse spirituelle, effectivement. Enfin, la danse peut être une discipline spirituelle.
Oui, finalement, si on retourne la question, on peut, à travers le corps, exprimer des convictions profondes chez l'humain.
Oui, et surtout, on peut, par le corps, retrouver des convictions profondes. Ça peut être... ça nous relie grandement à notre intérieur.
Alors, est-ce qu'il y a, pour la suite, vous pensez à des thèmes d'autres causeries ? Est-ce que vous êtes en train de chercher ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sujets qui vous questionnent ou qui vous amènent peut-être à des réflexions ?
Là, j'en finis une, oui, qui va être sur le sale et le propre, sur le déchet.
Qui est finalement une notion très subjective chez tout le monde.
Comme tous les sujets que je prends, ouais, c'est toujours ouais, qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est propre, voilà. À notre époque où il y a de plus en plus la conscience de notre rapport à l'environnement, c'est intéressant, je trouve, d'enquêter là-dessus.
Merci beaucoup, David, d'avoir répondu à nos questions.